VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. L'Afrique du Sud a salué ce mercredi l'héritage de Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte contre l'apartheid et qui aurait eu 100 ans ce 18 juillet avec une marche symbolique conduite par sa veuve Graça Machel et un forum sous la direction de l'ancien président américain Barack Obama. Chaque année, le Mandela Day, qui marque la naissance le 18 juillet 1918, de Madiba est célébré dans le monde entier. Agissez, inspirez le changement, faites de chaque jour un jour. Mandela exhorte la fondation qui porte son nom. Hier, mardi, dans un discours dans le stade de Johannesburg, point d'orgue des célébrations en hommage à Mandela, Barack Obama a rappelé la vague d'espoir qui avait déferlé dans le monde à la libération du premier président noir de l'Afrique du Sud le 2 février 1990, après 27 années derrière les barreaux. Lionel Gaïma.
Barack Obama a décrié ce qu'il considère comme un retour à l'ordre ancien. Pour l'ancien président américain, le racisme prévaut toujours en Afrique du Sud et aux États-Unis malgré les 67 ans qu'a consacré Mandela à la lutte contre ce mal. Notant le recul de la démocratie dans certaines parties du globe, Barack Obama a appelé les leaders mondiaux à suivre l'exemple de Nelson Mandela. Madiba a guidé cette nation par les négociations et péniblement la réconciliation vers les premières élections libres et transparentes. Nous avons tous vu la grâce et la générosité avec lesquelles il a embrassé ses anciens ennemis et la sagesse avec laquelle il a quitté le pouvoir une fois sa mission accomplie. L'ancien chef de l'exécutif américain a déploré le renforcement des inégalités créées par l'émergence de nouveaux riches. Il s'est inquiété des troublants développements dans le monde, allant de l'implication américaine au Moyen-Orient à l'influence croissante de la Russie et de la Chine. Les politiques de la peur, du ressentiment et du repli sur soi se renforcent à un rythme sans précédent, a averti Barack Obama, qui a assuré n'avoir pas pour autant perdu espoir.
I believe in Nelson Mandela's vision.
Je crois en la vision de Mandela. Je crois en la vision de l'égalité et de la justice, de la liberté et d'une démocratie multiraciale bâtie sur l'idée que tous les hommes sont créés égaux et doués par le Créateur de certains
droits.
L'assistance a chaleureusement applaudi Barack Obama. Godfrey Mokgweetsi a voyagé de la province du Limpopo jusqu'à Johannesburg, soit une distance de 400 km pour écouter l'ancien président américain.
Oui, le président Obama a raison. Il a parlé des capitalistes qui s'enrichissent. Ils oublient les pauvres et cela n'est pas le reflet de Mandela. Nous voulons une transformation économique radicale et le président Obama a abordé les questions.
Les autres orateurs de mardi ont remercié Obama, affirmant qu'il est une grande source d'inspiration pour les jeunes à travers le continent africain.
Le groupe d'études sur le Congo invite le gouvernement de Kinshasa à enquêter sur l'implication de certaines autorités congolaises dans le soutien aux milices qui ont ensanglanté la région du Kasaï en 2016-2017, selon un rapport Jacques Aristide.
Le GEC de l'Université de New York écrit que la réponse militaire du gouvernement a aggravé le conflit qui a fait plus de 3000 morts. La région du Kasaï a basculé dans la violence en août 2016, après la mort du chef traditionnel Kamuina Nsapu, tué par l'armée après s'être ouvertement opposé au pouvoir de Kinshasa. Le groupe d'études note que l'incertitude générée par la bataille pour la succession du président Joseph Kabila a contribué à cette dynamique. D'après le rapport, le conflit a vu de nombreux politiciens, dont Évariste Boshab, Hubert Mingo, Makaire Mwangu et Alex Kandé, manœuvrer pour des positions d'intermédiation entre conflits locaux et pouvoir politique national. Les quatre hommes sont membres de la majorité présidentielle. Pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, c'est à la justice et non au gouvernement qu'il revient de poursuivre les infractions, à moins qu'il y ait eu une réforme accordant au gouvernement des compétences judiciaires, dit-il.
Le premier vol commercial depuis 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a décollé aujourd'hui d'Addis Abeba, une liaison aérienne venant concrétiser la spectaculaire réconciliation en cours entre les anciens ennemis de la Corne de l'Afrique. Ethiopian Airlines a précisé sur son site web que le vol à destination d'Asmara avait quitté l'aéroport international d'Addis Abeba après une cérémonie décrite par le patron de la compagnie, Tewolde Gebremariam, comme un événement unique dans l'histoire de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Le gouvernement et les rebelles au Soudan du Sud, enfoncés dans une guerre civile, doivent signer demain jeudi un accord préliminaire de partage du pouvoir qui sera suivi d'un accord définitif le 26 juillet, ont annoncé mardi les autorités du Soudan voisin. Ni le président sud-soudanais Salva Kiir, ni son ex-vice-président et le leader rebelle Riek Machar, protagoniste de la guerre civile dans le plus jeune pays du monde indépendant du Soudan depuis 2011, n'ont rejeté le projet d'accord selon le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué publié à Khartoum où se déroule depuis juin une nouvelle série de pourparlers de paix. L'accord définitif doit être signé le 26 juillet en présence du président soudanais Omar al-Béchir et d'autres dirigeants de l'Afrique de l'Est. L'ONG espagnole Proactiva Open Arms a annoncé aujourd'hui que ses bateaux rentraient en Espagne avec la survivante d'un naufrage repêché lundi avec deux cadavres au large de la Libye. Selon l'ONG qui porte secours aux migrants en Méditerranée, les autorités italiennes avaient proposé de prendre en charge la survivante, une Camerounaise de 40 ans en hypothermie, mais pas les deux cadavres d'une autre femme et d'un enfant. Proactiva pour Open Arms, qui accuse les gardes-côtes libyens d'avoir abandonné à leur sort les deux femmes et l'enfant sur une embarcation, assure par ailleurs dans un communiqué crainte pour la protection de la survivante et son entière liberté pour témoigner.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7h07. Les 12 enfants et leur entraîneur de football coincés dans une grotte inondée de Thaïlande et sauvés au terme d'une périlleuse opération de secours international ont quitté l'hôpital aujourd'hui. Ils sont montés dans des minibus stationnés devant l'hôpital Chiang Rai, où ils ont passé plus d'une semaine et devaient ensuite s'adresser à la presse pour la première fois. Le président américain est revenu hier sur ses propos de lundi à Helsinki, en Finlande, pour dire qu'il accepte les conclusions des agences de renseignement des États-Unis, selon lesquels la Russie s'était ingérée dans la présidentielle de 2016. Idrissa Seydoudia.
La veille, lors d'une conférence de presse à l'issue de son sommet avec Vladimir Poutine, Donald Trump avait accepté les démentis de son homologue russe à ce sujet. Le président américain a cependant ajouté dans une déclaration lue devant la presse mardi à la Maison-Blanche que d'autres personnes pourraient avoir aussi été impliquées dans cette ingérence électorale. L'acceptation publique des démentis de Poutine avait valu à M. Trump les vives critiques de parlementaires démocrates et républicains qui lui reprochaient de prendre le parti d'un dirigeant étranger plutôt que celui de ses propres agences de renseignement. Mais lors d'une réunion hier avec des membres républicains du Congrès, M. Trump a dit qu'après examen de ses remarques à Helsinki, il s'est rendu compte qu'il avait commis un lapsus en oubliant de mettre une particule négative dans une phrase clé. Il a expliqué qu'il avait déclaré « Je ne vois aucune raison pour laquelle cela serait la Russie qui serait ingérée dans l'élection, alors qu'il voulait dire en fait « Je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne serait pas la Russie ». Cela dit, Donald Trump a répété que, de toute façon, les actions russes n'ont eu aucun impact sur sa victoire face à la démocrate Hillary Clinton et qu'il n'y a eu aucune collusion entre la Russie et sa campagne électorale.
Merci Idrissa. Au moins 12 civils ont été tués en Syrie dans des raids nocturnes sur l'ultime ville rebelle de la province méridionale de Deraa, a rapporté aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Le pouvoir syrien a repris le contrôle de la quasi-totalité de Deraa au terme d'une offensive lancée le 19 juin et d'un accord de réconciliation négocié par Moscou que les rebelles ont été contraints d'accepter et qui s'apparente de fait à une capitulation. Et puis, au terme de violents affrontements, les forces pro-gouvernementales ont pris le contrôle du quartier rebelle de la ville de Masaya au sud du Nicaragua, qui avait érigé des barricades depuis le début de la contestation contre le président Daniel Ortega. Au moins deux personnes ont été tuées dans l'assaut. Une femme âgée et un policier a déclaré à l'AFP la présidente du centre nicaraguayen des droits de l'homme, Vilma Nunez. Les affrontements à Masaya interviennent au moment où la communauté internationale réclame avec insistance l'arrêt de la répression. Les États-Unis ont fermement exhorté mardi le président du Nicaragua à cesser la violence et le bain de sang. Prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.